Ce soir, nous parlons de la confiance. À l'heure de la loi sur l'école de la confiance, quid de la confiance dans l'éducation, des apprentissages des élèves, à notre relation à cette institution qu'est l'école?
Être et savoir, Louise Touret.
La confiance et son opposé, la défiance, structurent fortement, plus que jamais peut-être, l'imaginaire politique, les discours et le débat contemporain. Alors que la loi sur l'école de la confiance, un nom sur lequel nous allons nous pencher, vient d'être votée par l'Assemblée nationale et doit être examinée par le Sénat prochainement, alors que la défiance est au cœur des débats éducatif, avec les dernières réformes par exemple, alors que l'expertise est remise en cause, y compris par les décideurs et les acteurs de l'école, parents et enseignants, à l'heure des réseaux sociaux, l'urgence est d'éduquer à l'esprit critique et dans le même temps de donner confiance dans les institutions. Bref, à l'heure des fake news, Être et Savoir s'interroge sur la place de la confiance et en miroir de la défiance dans l'éducation, dans le cadre des réformes de l'école, de la transmission des savoirs et même dans les relations entre les générations. La leçon de choses de Sophie Bobert avec Jeanne Chéral, c'est à 17h52. La chanteuse et compositrice nous racontera sa vocation artistique très précoce et la joie aussi d'avoir enfin été considérée comme un être pensant en classe de philo à l'heure où son modèle, c'était Charlie Hebdo, nous racontera-t-elle. Et je salue sans plus tarder les invités d'Être et Savoir aujourd'hui. Bonjour Pierre Merle.
Bonjour Louise Touret.
Merci d'être avec nous depuis France Bleu Armorique à Rennes. Vous êtes professeur de sociologie à l'École supérieure du professorat et de l'éducation de Rennes, l'ESPE, auteur d'un tout nouveau livre. Il vient de sortir « Polémique et fake news scolaire, la production de l'ignorance », publié aux éditions du Bordelot. Daniel Agazinski va nous rejoindre. Il est l'auteur d'un rapport « Expertise et démocratie, faire avec la défiance ». Et puis au téléphone avec nous, Joëlle Proust. Joëlle Proust est philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, membre de l'Institut Jean Nicot et du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Votre groupe de travail, Joëlle Proust, s'appelle « Métacognition et confiance en soi ». Déjà, je pense que ce terme mérite quelques explications. Bonjour.
Bonjour Louise Touret. Oui, par confiance en soi, on entend quelque chose qui n'est pas du même registre que la confiance en l'autre ou la défiance en l'autre. La confiance en soi, c'est un sentiment métacognitif, c'est-à-dire un sentiment qui est engendré par l'activité cognitive que l'on a soi-même. Donc ce que l'on appelle confiance en soi, c'est un retour positif ou en jargon du feedback positif sur l'activité qui fait prédire à l'agent qu'il réussira plus tard encore son activité ou qu'il va la réussir maintenant s'il ne l'a pas encore effectuée.
Donc la confiance en soi, ça compte énormément pour les apprentissages et pourtant cette confiance, elle est très relative. Les élèves ne l'éprouvent pas de la même façon et cela va jouer très profondément sur leur capacité aussi à réussir.
Vous avez tout à fait raison, c'est le ressort essentiel de l'envie d'apprendre, c'est la confiance de pouvoir mener à bien cet apprentissage de façon tout à fait attendue. Or, ce que l'on sait maintenant, c'est que cette confiance en soi n'est pas seulement engendrée par la simple capacité de l'élève, mais aussi par des représentations sociales qu'il a de lui-même ou d'elle-même. Alors ça, évidemment, c'est ce qu'on appelle un biais socio-cognitif. Et ça a un effet dévastateur sur l'effort d'apprentissage. Il est démontré aujourd'hui que, par exemple, la représentation de soi comme fille implique, si cette représentation est activée au moment de la tâche, peut-être que je reviendrai sur cette expression d'activation, mais c'est important, si cette représentation d'être une fille est activée au moment où on a à montrer ses capacités, eh bien, les stéréotypes sociaux vont persuader la fille que c'est pas la peine qu'elle s'engage vraiment fort dans une activité mathématique, parce que les croyances en cours, c'est que les filles sont nulles en maths. Ça, ça va avoir un effet sur son effort, et ça va avoir un effet sur l'envie de réaliser cette activité.
Un effet même dans, délétère.
Oui, il y a d'autres stéréotypes. Oui, cet effet délétère, on le retrouve avec d'autres stéréotypes socio-cognitifs, par exemple l'origine sociale. Beaucoup d'élèves estiment que des gens comme eux, ben, c'est des gens qui réussissent. Là, ce sont les enfants venant de milieux favorisés. Mais symétriquement, malheureusement, les enfants de milieux défavorisés croient souvent que, étant dans ce milieu-là, on a peu d'espoir de réussir à faire des choses difficiles. Et ça, évidemment, c'est une des tâches de l'école de la République de montrer à ces enfants de façon extrêmement pratique qu'il n'en est rien, qu'ils ont tout à fait les mêmes chances que les autres de réussir leurs apprentissages.
Alors sur ces façons extrêmement pratiques dont vous parlez, Joël Proust, je sais que vous allez formuler des recommandations aux enseignants pour, pourquoi d'ailleurs ? Pour les aider à s'organiser, pour les aider dans leurs gestes professionnels à installer cette confiance, confiance des élèves.
Alors naturellement, nos recommandations visent les professeurs qui n'ont pas encore eu l'occasion d'apprendre eux-mêmes les bons gestes. Nous n'avons pas du tout la prétention d'apprendre leur métier à des enseignants confirmés.
Il n'y a pas de défiance.
Il y a quand même quelques gestes que les enseignants font de toute bonne foi en pensant qu'elles n'ont aucun effet inégalitaire, alors qu'en réalité maintenant, grâce aux travaux entre autres de Pascal Huguet, on voit qu'ils en ont. Par exemple, le simple fait de demander aux élèves de lever le doigt et de donner la parole à la personne, à l'élève qui a répondu, qui a levé la main le plus vite, va avoir pour effet de renforcer la conviction des élèves que certains sont meilleurs que d'autres. Et vraiment, dès qu'on met en branle la comparaison sociale dans la classe, c'est source d'inégalité dans l'apprentissage lui-même, et pas seulement au niveau des représentations sociales. Parce que les tâches sont toujours médiatisées dans la tête des élèves par la représentation de ce qu'ils peuvent faire dans cet apprentissage-là. Et cet apprentissage-là, du coup, devient très pesant pour les élèves. Enfin, il est perçu comme très difficile par les élèves qui sont dans la catégorie de gens qui estiment que, eh bien non, ça c'est pas pour nous, c'est pas une chose que nous faisons naturellement, en quelque sorte.
Parce que, bien sûr, Joël Proust, il y a tout ce qui se joue en dehors de l'école, dans le cercle familial, dans la société. On y reviendra, mais on reste encore un peu à l'école avec cette question, celle de l'évaluation et de la note qui compte tellement, tellement dans l'esprit des élèves et de leur famille, et qui parfois agit aussi sur la représentation qu'on a de soi en tant qu'élève, en tant qu'apprenant, et de la valeur qu'on a vis-à-vis de ses enseignants.
Oui, vous avez raison, les notes jouent un rôle motivant pour un certain nombre d'élèves, mais il faut savoir que la motivation ne va pas dans le même sens selon que vous êtes un élève qui va bien, qui réussit, ou si vous êtes en difficulté. Les notes pour un élève en difficulté vont être perçues évidemment comme une source aversive, hein, comme quelque chose qu'il faut éviter parce qu'on ne s'attend pas à avoir de bons résultats. Donc on va éviter les occasions d'exposer ce que l'on sait, de s'exposer à l'erreur, et par conséquent on va essayer d'éviter les apprentissages qui sont source d'erreur. Donc, lié à la note, il y a le statut de l'erreur. La plupart des professeurs, peut-être, ne mesurent pas à quel point la note va biaiser le sens de l'erreur. C'est-à-dire que les mauvaises notes qui vont être réparties sur plusieurs matières pour un seul et même élève vont engendrer la conviction que on n'est pas bon de façon générale, que c'est la propre personne que l'on est qui est reflétée par ses notes. Or, évidemment, c'est ça que l'apprentissage essaie de combattre en permanence, en montrant qu'un apprentissage, c'est pas sorcier, c'est juste des capacités à maîtriser de façon successive. Or, les notes, en quelque sorte, ignorent cet aspect-là de la construction de l'apprentissage. Elles ne voient qu'un résultat à un moment donné. Or, ce résultat va avoir un effet en retour sur la motivation, qui est évidemment très souvent désastreux pour les élèves qui sont tant soit peu en difficulté. ça va aggraver la spirale de l'échec, disons, à partir du moment où l'élève n'atteint pas la moyenne, il va tendre très souvent, malheureusement, à descendre dans cette fameuse spirale de l'échec parce que il n'a pas suffisamment confiance dans sa capacité d'apprendre. Donc la note est une source d'incertitude et de d'échecs perçus à venir. Alors ce qu'il faut évidemment faire, c'est montrer que l'erreur elle est constitutive de l'apprentissage. On n'apprend pas si on ne se trompe pas. Donc l'évaluation qui résiste à ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation formative qui va assister sur l'acquisition de capacités de façon tout à fait structurée, ce qui permet aussi de définir cette fameuse zone de développement proximal. C'est-à-dire que très souvent, on note les élèves sans avoir vérifié qu'ils avaient déjà les acquisitions nécessaires à l'accomplissement de la tâche, particulièrement au début d'une année scolaire. Alors là, évidemment, l'élève s'engage très mal dans l'apprentissage parce qu'il va être puni à chaque fois qu'il aura il aura fait un exercice et qu'il aura soumis cet exercice à une notation.
Et ressentir la notation comme une punition. Merci beaucoup, Joëlle Proust. Je pense que ça va faire réagir Pierre Merle, qui est aussi spécialiste de l'évaluation scolaire. Cette question des notes et du statut de l'erreur. Et puis, pour reprendre la question de départ, la confiance qui se construit dans la classe entre eux, élèves et enseignants, c'est aussi cette confiance qui est peut-être une des bases de la confiance plus tard dans notre société. Pierre Merle.
En fait, cette question de pratique des notations est tout à fait centrale. On observe en fait que à partir du moment où il y a des notes, il y a ce qu'on appelle dans les classes des comparaisons sociales forcées, ascendantes pour les élèves faibles puisqu'ils sont toujours comparés à des élèves qui sont meilleurs. Et que ces comparaisons sociales forcées aboutissent à des résignations apprises. L'élève pense qu'il n'est plus capable. Et cette résignation apprise débouche sur une réduction des ressources attentionnelles. L'élève n'écoute plus, en fait. Pour reprendre ce qui a été dit tout à l'heure sur les élèves qui sont davantage interrogés par les professeurs, on constate que ce sont davantage les garçons et que ce sont davantage les enfants de catégorie aisée. Donc, cela signifie que les filles sont moins interrogées, que les enfants des catégories populaires sont moins interrogés, et donc ils comptent moins, en quelque sorte, on leur attribue moins de valeur. Et évidemment, ils sont tout à fait conscients de cette discrimination dans les pratiques d'interrogation du prof. Et c'est des questions très sensibles et très fines qu'il faut analyser, notamment, et enseigner dans la formation des maîtres. J'ajouterais que, pour ce qui est des comparaisons internationales, on observe que les élèves français, les collégiens français, déclarent beaucoup moins souvent que les autres une bonne confiance en eux. Donc on a un système scolaire qui ne favorise pas cette confiance alors qu'elle est essentielle au processus d'apprentissage. Donc il faut essayer de réduire les notes, même les classes sans notes sont des bonnes solutions, on s'aperçoit que les élèves progressent plus. Et puis utiliser d'autres formes d'évaluation comme l'évaluation formative.
Alors, l'évaluation, les notes, c'est aussi un des nombreux sujets de débats scolaires, des débats qui circulent à travers la société. On va y revenir. Si on a choisi de parler de la confiance, c'est d'abord parce que c'est le nom de la loi pour une école de la confiance. Ce terme, Pierre Merle, que vous inspire-t-il dans le cadre du nom d'une loi? J'ai pensé à cette expression de cours de récré, prendre la confiance. Alors, est-ce qu'utiliser ce mot, c'est affirmer que la confiance prime ou est-ce que c'est un petit peu vouloir forcer la confiance des acteurs de l'éducation?
Tout dépendra de l'impact de la loi et comment elle est perçue par les professeurs. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plutôt de la défiance. Le projet d'instaurer de la confiance est évidemment excellent, mais il y a des processus à suivre, en quelque sorte, pour que la confiance l'emporte. Et je pense que parmi ces processus essentiels à respecter, il y a en fait la concertation avec les professeurs, puisque ce sont eux qui vont mettre en œuvre cette loi, qui vont mettre en œuvre cette confiance auprès des élèves. Et si on leur attribue pas au départ le statut d'acteur à part entière susceptible de faire part de leur expérience aussi dans la classe, la confiance ne peut pas s'imposer en fait, ne peut pas descendre d'en haut. Donc il y a un processus à mettre en œuvre qui est tout simplement la concertation avec les professeurs. Et je pense que au niveau de ceux qui produisent la loi et puis la mise en œuvre par des décrets, des arrêtés, cette concertation, elle serait enrichissante aussi.
Alors ce processus de confiance des acteurs de l'éducation, mais aussi de la société, des parents par exemple, il est extraordinairement important. De lui dépend l'échec ou la réussite d'une réforme. Antoine Pro l'a formidablement raconté dans un livre qui s'appelle « Du changement dans l'école ». Et on va revenir peut-être aussi d'ailleurs, comme Antoine Pro l'avait fait, à l'histoire de l'école et de ces batailles d'expertise qui rythment les débats scolaires. Le plus célèbre, c'est peut-être le débat sur la lecture, les méthodes de lecture. Il y a eu de nombreuses batailles qui sont aussi des batailles politiques et qui ont duré des années. Vous en parlez dans votre livre, Pierre Merle.
Oui, ça me parut une question incontournable quand il s'agit de fake news, comme les notes, puisqu'il y a un certain nombre de personnes connues qui considèrent que les notes sont absolument indispensables, que ce sont des thermomètres dont on ne peut pas se passer. Donc là, c'est une fake news par rapport à toute la connaissance scientifique. Et par rapport aux pratiques de lecture, c'est un peu la même chose, puisque au 18e, c'était du syllabique pur, où il y avait des petits ouvrages, où il y avait toutes les syllabes que les enfants apprenaient par cœur, ce qui était particulièrement ennuyeux. Et puis la première méthode globale est apparue en fait au 18e siècle, c'est un académicien grammairien, et elle a été remise en œuvre en quelque sorte par un inspecteur de l'éducation nationale qui s'appelait Jean Faucambert, qui a beaucoup propagé cette méthode. Il a fallu attendre les chercheurs en sciences de l'éducation, qu'on appelle parfois les pédagogistes à tort, pour se rendre compte que cette méthode globale posait de sérieux problèmes. Et je dirais que finalement, c'est utile aujourd'hui d'en reparler parce qu'il y a une certaine confusion dans l'esprit du public. Et il y a aussi parfois, au niveau des professeurs des écoles, quelques incertitudes. Quand on les interroge, ils vous disent « ben il faut un peu des deux ». Alors en fait, les études montrent clairement maintenant que l'apprentissage de ce qu'on appelle le code graphème-phonème, c'est-à-dire faire associer à un phonème comme O, des graphèmes comme OAU ou EAU, sont des apprentissages incontournables et essentiels à mener dès le début. Et en même temps, se limiter à la méthode syllabique strict ou pur, ce n'est pas suffisant parce qu'il faut associer du sens en fait, il ne faut pas se limiter au code graphophonème, il faut aussi avoir du graphosémantique, c'est-à-dire il faut lire des petites histoires, il faut donner du sens à tout ça pour que les élèves puissent percevoir le sens de leurs apprentissages. Donc on voit qu'on n'est pas sur de la méthode mixte, on est sur de la méthode syllabique à laquelle il faut tout de même associer l'apprentissage du sens. Et ceci n'est pas toujours encore tout à fait clair, peut-être dans les enseignements qui sont réalisés dans les ESP, ou en tout cas quand on interroge les professeurs des écoles, on a l'impression qu'il y a une incertitude, alors que au bout de 2 siècles, et surtout au bout des 30 dernières années, la connaissance scientifique, là, est relativement bien établie maintenant.
Mais le débat continue et je suis sûre qu'il y a des gens qui vous ont écouté qui sont pas totalement d'accord avec vous, quoi qu'il en soit, Pierre Merle. Ce qui est intéressant, vous osez employer le terme fake news dans votre titre, fake news scolaire, c'est que ces informations, parfois déformées simplement, elles sont aussi utilisées dans le débat, parfois par des responsables, parfois par des experts, parfois par des enseignants ou même des politiques.
Oui, c'est assez surprenant et parfois déroutant en fait pour le chercheur de voir que, par exemple, un ancien ministre de l'Éducation comme Luc Ferry parle de l'idéologie gentillette selon laquelle les notes pourraient être traumatisantes. Eh bien, ce que a dit tout à l'heure Joël Proust, ce que disent en fait toutes les études de psychologie et de sociologie, indique que oui, mettre un 5 sur 20, voire un 2 sur 20 à un élève en mathématiques quand il commence en 6e, aboutit à détruire sa confiance en lui avec des conséquences considérables sur sa possibilité d'apprentissage. Donc, curieusement, les politiques, et parfois les experts, mais je dirais parfois plus souvent les politiques ou la presse, a une simplification considérable de l'information, parce qu'il y a des traditions, en quelque sorte, scolaires qui l'emportent sur la connaissance scientifique. On a l'exemple des notes, par exemple, selon laquelle les notes devraient être indispensables, alors que jusqu'à la fin du 19e siècle, les notes sont absentes pratiquement de l'organisation scolaire. Donc c'est une invention relativement récente. Et donc cette présence, ces fake news pour ce qui est des notes, pour ce qui est des pratiques de lecture, où à un moment c'était la méthode globale doit être absolument partout, ou par exemple pour le niveau scolaire.
Alors peut-être parce qu'en matière d'éducation, on a plus confiance dans le passé que dans l'avenir, qui peut paraître incertain. Daniel Agazinski, bonjour.
Bonjour.
Alors, on rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie, mais surtout, vous êtes chef de projet à France Stratégie, auteur d'un rapport publié au mois de décembre, Expertise et démocratie, faire avec la défiance. Question extrêmement intéressante que la place de l'expertise et celle de la défiance. Je pense que cette question, et tout le monde a en tête les manifestations des Gilets jaunes, dans lesquelles s'exprime évidemment une forme de défiance envers le pouvoir politique. La réponse du pouvoir politique, tiens, la consultation, et vous en parlez dans ce rapport qui comprend aussi un volet sur l'éducation. Cette question, elle est extraordinairement contemporaine. En quoi elle touche l'école ?
Elle touche l'école comme d'autres sujets. C'est pas là qu'elle a été le plus analysée. On a beaucoup parlé des scandales liés à l'expertise sanitaire, à l'expertise environnementale. Beaucoup de polémiques sur les questions économiques ou la question de l'évaluation de tel ou tel dispositif se pose. J'ai voulu dans le rapport aussi poser la question de la façon dont ça se passe en éducation, parce que contrairement à d'autres disciplines, je crois que l'une des spécificités de l'éducation, c'est l'extraordinaire pluralité des approches qu'on peut avoir sur les questions éducatives, qui font qu'on a une discipline, c'est ce que disait aussi Antoine Pro, qui est beaucoup moins consolidée que d'autres. Il n'y a pas une science unifiée des politiques éducatives qui permettrait de savoir, au fond, ce qu'il faut faire en toutes circonstances. Et on a, de ce fait, une assez grande concurrence entre les expertises sur différentes questions. Et ce qui est intéressant dans le livre de Pierre Merle, que j'ai lu moi aussi, c'est que on voit au fond comment fonctionne ce que le sociologue Xavier Pons appelle le populisme éducatif, c'est-à-dire la propension qu'ont un certain nombre d'acteurs à préférer mettre en avant des enjeux qui tiennent aux valeurs, qui tiennent aux représentations, en ne faisant que moyennement attention à l'efficacité de la politique qui est derrière. Ça s'est beaucoup vu sur les questions de violence, ça peut se voir sur les questions de notes, bien entendu, et on voit le conflit qu'il peut y avoir derrière ces approches.
C'est ce qui pourrait expliquer ce sentiment que le débat éducatif, alors pas forcément à France Culture, hein, ni dans les traits de savoir, non, plus sérieusement, que le débat éducatif patine, Pierre Merle.
Oui, en partie, parce que de fait, il y a beaucoup de recherches et les résultats ne sont pas toujours consolidés. Je voudrais prendre un exemple. Najat Vallaud-Belkacem avait développé au niveau de l'école primaire ce projet de 1 mètre de plus par école. Et en fait, il n'y a pas de recherche qui permette d'indiquer que c'est une bonne méthode en fait pour faire progresser les élèves. Le choix qui a été fait par Jean-Michel Blanquer, qui est de dédoubler, du point de vue scientifique, on connaît beaucoup plus des résultats, ils sont beaucoup plus solides. Cela tient sans doute au fait que c'est relativement facile de savoir comment les élèves progressent quand il y a 15 élèves dans une classe ou 25, alors que le mettre en plus, on ne sait pas trop comment il est utilisé, cela dépend des écoles, donc on n'a pas de mesures qui sont précises. Donc entre une mesure qui est mal, ça peut être parfois très bien à mettre en plus, mais en fait tout dépend du mode d'usage, de la mise en forme, en fait, l'organisation dans l'école. Donc on n'a pas vraiment de résultats scientifiques, et dans beaucoup de domaines on n'a pas de résultats scientifiques. Dans l'usage des outils numériques, par exemple, on n'a pas vraiment d'usage scientifique, parce que ces usages sont extrêmement multiples. Donc il y a effectivement une incertitude de la connaissance scientifique. Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'on a ces connaissances scientifiques, elles ne sont pas forcément plus mises en œuvre par les politiques, parce qu'il y a une espèce de brouillage de la connaissance scientifique compte tenu des zones d'ombre qui sont quand même relativement importantes malgré les recherches que l'on peut mener.
Et Pierre Merle, on peut vous renvoyer ainsi que les auditeurs à l'émission qu'on a faite sur la taille des classes, c'était il y a 2 semaines.
Exactement.
Alors, il y a des résultats, mais c'est vrai que ce sont des résultats d'étape pour le CP à 12 ou à 15. Ils sont bons, mais c'est pas encore totalement au niveau de ce que ça peut être dans d'autres pays. C'est vrai que les études sur le numérique ne montrent pas de résultats en hausse pour les élèves. Parfois, c'est même le contraire. Daniel Agazinski, vous voulez ajouter quelque chose.
L'exemple de la comparaison entre le plus de mètres que de classe, donc qui remonte à la loi de refondation de l'école à 2013, même s'il y avait eu d'autres expérimentations avant, la comparaison entre cet exemple-là et le dédoublement des classes, il est extrêmement intéressant parce qu'au fond, on a une mesure qui est une mesure purement quantitative. On réduit la taille des classes. Et donc, c'est très facile d'évaluer quantitativement une mesure quantitative. C'est beaucoup plus difficile d'évaluer avec le même objectif de mesure numérique, enfin, au sens quantifié, disons, une mesure qui, elle, est davantage qualitative avec une pluralité de manières de la mettre en œuvre. Et le paradoxe, c'est qu'on peut se retrouver dans une situation où, si on attend une mesure quantitative, du coup, on ne va prendre que des dispositions quantitatives, que des mesures mesurables. Et on va avoir des politiques qui ne sont indexées que sur leur mesurabilité, alors que des bénéfices d'autre nature peuvent aussi être poussés par des mesures de type qualitatif, par exemple sur les programmes. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est aussi important de se prémunir de ce que Ponce appelle le populisme éducatif que de ce qu'on pourrait appeler, une forme de positivisme éducatif ou de scientisme éducatif où on considère que dès lors qu'il y a eu une évaluation qui a été faite d'un dispositif quelque part qui dit ça produit tel résultat sur telle variable ou ça ne produit pas tel résultat sur telle variable, alors on le fait tout le temps ou on le fait jamais.
Every day, I go to work.
Culture, être et savoir, Louise Touret.
Nous parlons de la confiance à l'heure de la loi sur l'école de la confiance. Confiance en l'école, cette confiance dans ce pays, voilà, on ne va pas rappeler, mais si peut-être un petit peu, le rôle tout à fait central de l'école dans notre pays, parce que c'est l'école républicaine, c'est un rôle à la fois historique et politique. Cette école, pourtant, et là, on revient à l'idée de confiance, est-ce que tout le monde lui fait confiance. Dans tout ce qu'on peut lire sur la confiance et la défiance en politique, on voit que les classes les plus favorisées ont davantage confiance en l'État, mais aussi en l'information, dans les médias, par exemple. Et puis, qu'en est-il pour l'école, finalement? C'est tout à fait spécial, le rapport à l'école publique, aux enseignants, et puis cette confiance qu'on peut avoir ou non dans l'avenir, et puis, par exemple, l'université.
Alors, Daniela Gazinski. La question de la confiance à l'égard des institutions, qui est notamment mesurée par le baromètre du CEVIPOF, elle n'est pas absolument...
Le CEVIPOF, c'est le centre
d'études politiques de Sciences Po. Elle n'est pas absolument linéaire en fonction des catégories socioprofessionnelles et en fonction des niveaux de diplôme. Il y a pas mal de paradoxes là-dessus qui méritent d'être analysés de près, mais on n'a pas le temps de le faire là. Pour l'école, le rapport à l'école, il est extrêmement marqué aussi par des expériences personnelles. C'est ce qui fait l'une des barrières, l'une des limites qu'on peut avoir quand on essaye de se confronter à une expertise un peu globalisante, un peu scientifique, un peu générale sur l'école. C'est que chacun, plus que pour peut-être n'importe quel autre sujet, est renvoyé à son expérience personnelle d'élève, de parent, de professeur. Et c'est cette réconciliation entre l'individuel, le personnel, l'empirique et la mesure, la science, le savoir qui rend aussi ce débat plus difficile que d'autres.
Pierre Merle, sur cet aspect confiance dans les institutions et particulièrement l'institution scolaire.
Alors elle est quand même très socialement marquée puisqu'en fait les enfants de catégorie aisée ont beaucoup plus confiance dans l'école. Je dirais que la thèse de Bourdieu et Passeron sur les héritiers est relativement validée. Les parents ont fait des études, ils attendent que je fasse des études. Je bénéficie généralement de bonnes conditions d'apprentissage dans de bonnes écoles primaires, collèges et lycées. Toutes les conditions favorables sont réussies. Et en même temps, si j'ose dire, pour reprendre un terme à la mode, ce qu'on observe, et c'est la limite de la théorie de la reproduction, ce qu'on observe, c'est des réussites paradoxales, parce que, de fait, les élèves ont une expérience subjective, vont rencontrer tel ou tel maître particulièrement efficace, qui leur donne la parole, qui leur donne confiance. Et puis, il va y avoir un processus vertueux qui va se mettre en place et qui va faire que, alors même que les conditions sociales ne sont pas favorables, eh bien, ces élèves vont réussir. Toutefois, quand on a des approches quantitatives globales, ce que l'on constate pour l'école française, c'est que dans celle-ci, les inégalités de réussite selon l'origine sociale sont les plus élevées de l'OCDE avec la Hongrie. Donc, on voit bien que l'approche quantitative est utile pour situer l'école française et en même temps, on se rend compte qu'il faut mieux former les maîtres pour qu'ils prennent conscience de leurs responsabilités et de leur possibilité d'agir d'une façon considérable sur la réussite scolaire de leurs élèves.
C'est intéressant que vous parliez de responsabilité des maîtres parce que ça fait partie de la loi. En tout cas, c'est formulé d'une certaine façon. Ça fait énormément débat, en tout cas dans les milieux enseignants. L'article premier de la nouvelle loi sur l'éducation, alors elle doit encore faire la navette parlementaire cette loi, cet article indique que les personnels doivent faire preuve d'exemplarité dans l'exercice de leurs fonctions, de respect pour l'institution scolaire dans ses principes comme dans son fonctionnement. D'aucuns y voient ce qui serait une limite à la possibilité de critiquer l'école, l'institution scolaire, la politique du gouvernement, le ministre de l'Éducation nationale. Pierre Merle, qu'en pensez-vous?
C'est-à-dire qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a la mise en œuvre de la loi, et l'application de la loi. Et donc, cette expression « respect pour l'institution scolaire » peut faire l'objet d'interprétations diverses. Et peut-être à raison, l'avenir le dira. Des personnels éducatifs, des professeurs pensent que les critiques qu'ils peuvent présenter vis-à-vis de leur institution peuvent être éventuellement sanctionnées. Alors que ces critiques, à mon avis, sont utiles. Quand on voit les conditions de scolarisation de certains écoliers dans les écoles marseillaises, on se dit que, heureusement, que les professeurs des écoles, avec les parents d'ailleurs, réagissent en considérant que ces conditions d'enseignement, de travail, sont déplorables pour les maîtres et pour les élèves. Donc là aussi, c'est une question de conditions de travail, puis de confiance que l'on accorde aux maîtres en leur donnant des conditions de travail correctes. Donc l'expression, elle n'est pas tout à fait la même que celle de la responsabilité. Je pense que les professeurs ont une parfaite conscience de leur responsabilité vis-à-vis des élèves. Tous ceux que je connais, leur écrasante majorité, sont très engagés dans leur travail, prennent très à cœur les progrès de leurs élèves. Donc je pense qu'il y a un glissement entre la responsabilité qu'on le peut percevoir et puis le respect pour l'institution scolaire, parce que les deux vont pas ensemble. Autant je pense que cette responsabilité vis-à-vis des élèves, elle est entière, autant pour ce qui est du rapport à l'institution, il est souvent conflictuel. Il y a le sentiment que l'institution ne nous respecte pas assez, respecte pas assez les élèves, respecte pas assez les professeurs, ne prend pas assez en compte leurs paroles, leurs conditions de travail difficiles, etc. Donc on est sur deux plans d'analyse, je pense.
Et c'est peut-être ça qui peut abîmer, si on vous entend Pierre Merle, la confiance des enseignants. Alors il n'y a pas que les enseignants, il n'y a pas que l'école dans la vie des enfants et des jeunes. Il y a tout un contexte qui est marqué, et je ne change pas totalement de sujet, Daniela Gazinski, vous allez voir, par des grèves climatiques, des grèves scolaires. Ce sont des grèves qui sont portées par des élèves dans plusieurs pays. Alors, on connaît la figure de Greta Thunberg, qui a 16 ans aujourd'hui, qui est suédoise, qui, depuis des mois, a lancé une action pour le climat. Elle était à Paris vendredi. Et finalement, là aussi, on parle d'expertise, parce que quand on parle de climat, on sait que le GIEC, c'est justement une réunion d'experts qui s'est voulu très global, des experts de tous les pays pour fournir des analyses relativement incontestables sur le climat. Finalement, ça n'influe pas beaucoup sur les politiques. Et c'est justement ce contre quoi se révoltent ces jeunes et puis ces gens qui manifestent pour le climat. Là, la place de l'expertise, c'est pas par rapport aux citoyens, c'est par rapport aux politiques, Daniela Gazinski.
Bien sûr, la défiance à l'égard des experts n'est pas du tout que le fait de citoyens, d'une part de citoyens. Elle est aussi le fait, et c'est vrai en éducation comme dans d'autres sujets, de responsables administratifs ou politiques. Et c'est pour ça, entre autres, que dans le rapport, on propose de ce qu'on appelle démocratiser l'expertise, c'est-à-dire à la fois favoriser la circulation des savoirs constitués auprès des citoyens, mais aussi permettre à toute une série de personnes, qu'elles soient profanes ou qu'elles aient par leur activité professionnelle une expérience spécifique d'un sujet, et typiquement les enseignants le sont pour l'école, qu'elles aient la possibilité de contribuer à un savoir consolidé sur un sujet. Je pense que c'est ça aussi que les professeurs attendent de l'institution d'éducation nationale, c'est qu'ils soient entendus par elle, parce qu'ils savent quelque chose de l'école que l'administration ne sait pas forcément de la même façon. Et pour le climat, même si le GIEC fait effectivement des rapports sur l'évolution du climat à l'échelle de la planète, il y a toute une série de savoirs hyper locaux à consolider pour savoir comment limiter les émissions, comment se préparer au changement climatique. Et c'est ce rapprochement entre des savoirs globaux et des savoirs locaux pour lesquels il faut construire des institutions nouvelles.
Mais comment faire confiance dans des hommes politiques, des institutions et des États qui eux-mêmes ne font pas confiance aux experts? C'est une question qui se pose aux futurs citoyens que sont les jeunes d'aujourd'hui, mobilisés ou pas. C'est une question qui se pose à vous, à moi en tout cas.
Le rapport des décideurs publics au sens large aux experts, il est toujours complexe parce qu'au fond, quelqu'un qui a une décision politique, administrative à prendre, il a envie de trouver de la certitude. Il a envie de savoir ce qui va se passer quand il va appuyer sur tel ou tel bouton. Il y a un certain nombre d'experts, en tout cas de personnes qui sont mobilisées en situation d'expertise, qui vont être prudents, qui vont dire voilà ce qu'on peut savoir, ce qu'on ne sait pas, etc. Et la façon dont on interroge, dont on interpelle l'expert pour lui demander d'éclairer une question ne permet pas toujours de sortir de cette incertitude-là. Et de ce point de vue-là, on peut aussi comprendre, pas simplement faire haro sur les politiques, pas simplement en faire une forme de bouc émissaire sur ces dysfonctionnements-là, on peut aussi comprendre qu'il y ait des types d'incertitudes, des types de savoirs qui ne sont pas faciles à utiliser quand on a une décision à prendre. Sur le climat, si on revient sur la question du climat, où pour le coup on a un savoir qui est plutôt pas mal consolidé sur ce qui s'est passé et sur ce qui nous attend. Ça ne dit pas forcément du jour au lendemain aux politiques comment il fait pour réduire les émissions, faire porter la charge d'une manière relativement équitable, on voit bien que c'est ça qui pose des difficultés, sur une population, et encore plus quand il s'agit de regarder l'ensemble des pays du monde. Donc c'est sûr que c'est tentant, quand on a une expertise qui nous fait voir un péril relativement imminent, de faire un petit peu parfois l'autruche et de considérer que le problème se réglera autrement, plus tard, avec d'autres, etc.
Voilà, et puis on parle évidemment pas spécifiquement de la France, on a consacré une émission la semaine dernière au Brésil où ce genre de problème se pose de manière particulièrement aiguë. Tous les auditeurs pensent à Donald Trump, je suppose, en nous écoutant. Alors votre rapport qui a été publié en décembre et rédigé avant, Daniela Gazinski, avait cette préscience de parler de grands débats, en tout cas qu'apporte la participation? Que peut-on apprendre de la participation? Question très pertinente. Aujourd'hui, on demande aux citoyens de participer. Et le ministre de l'Éducation et le président se sont émus du fait que les jeunes participent à ces débats. Pierre Merle.
Le, le, L'un des pièges, c'est ça consiste souvent à opposer expertise et participation. À dire, bon, bah, d'un côté, on va consulter les experts qui savent ce qu'il en est, et puis de l'autre, on va demander aux gens ce qu'ils veulent, leurs opinions, etc. Et ça suscite énormément d'incompréhension, parce que d'un côté, les experts disent, oui, mais enfin bon, nous, on sait, on va quand même pas demander l'avis des gens qui ne savent pas. Et de l'autre côté, quand on consulte les citoyens sur cette base, on dit, mais de toute façon, ce sont les experts qui décident, et nous, on nous demande simplement de choisir entre des options prédéfinies. Ce que l'on propose et ce que l'on a identifié dans un certain nombre de pratiques comme très nécessaire, c'est de faire participer des citoyens à la production de l'expertise elle-même. Parce que comme je le disais pour les agents publics, il y a de l'expérience, de l'expertise du vécu qui doit être mise en forme pour contribuer à un savoir global. Il ne s'agit pas de dire à un citoyen, tiens, toi, qu'est-ce que tu veux sur tel ou tel sujet? Ça ne fait pas avancer le schmilblick, en quelque sorte. Par contre, inviter chacun à se poser des questions complexes, à tenter d'apporter ce que son expérience de parent, d'enseignant, de chef d'entreprise, d'employé, lui fait comprendre des enjeux de transport, de logement, qui sont, au fond, le nerf de la guerre du climat, pour reprendre la question du climat, et qui sont des enjeux de fiscalité essentiels. C'est comme ça qu'on peut essayer de réconcilier les visions macro et les visions micro, qui, si on les fait se développer chacun dans leur coin, ne se réconcilieront pas.
Concernant la participation, l'expertise partagée, la consultation, l'éducation a une grande expérience. Depuis qu'Emmanuel Macron a lancé ses débats nationaux, moi, je pense au débat sur l'école lancé en 2004 suivi par Claude Tello qui avait publié un ouvrage sur la question. Plus d'un million de Français avaient participé à ce grand débat sur l'école. Et pourtant, presque 15 ans après, Pierre Merle, on parle de polémique et fake news scolaire, la production de l'ignorance. C'est le titre de votre ouvrage que je rappelle ainsi. Comment expliquer qu'on en soit encore là après toutes ces consultations, même immense comme celle-là, et pas grand monde s'en souvient, c'est quand même assez étonnant. Et puis, d'autres consultations pour la refondation, par exemple, de Vincent Peillon, et d'autres moments dans l'école où on a pourtant parlé, y compris avec les acteurs, les parents, les enseignants.
Je pense qu'en fait, il y a un désaccord fondamental sur le rôle de l'école. Il y a une conception élitiste de l'école qui est héritée des jésuites du XVIe siècle. Et puis, il y a une conception qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus démocratique, en quelque sorte, de l'école. Et cette concurrence, en fait, entre ces deux conceptions est un mode de lecture, nous donne un mode de lecture de l'ensemble des réformes. Moi, je suis très surpris qu'on ne parle pas davantage de cette innovation qu'est l'établissement public d'enseignement international, opposé ou en concurrence, qui sera forcément en concurrence avec les établissements des savoirs fondamentaux, puisque c'est les établissements publics de savoirs fondamentaux, puisqu'en fait la loi va modifier en quelque sorte la forme du collège, même si ce n'est pas dit. Et donc on retourne sur quelque chose, une conception de l'école qui va séparer les catégories aisées qui sont généralement très bonnes en langue, les enfants des catégories aisées qui sont très bonnes en langue, et les autres. Donc on voit bien que derrière la lecture qu'on peut avoir des réformes, il y a une lecture, je dirais, politique sur quel est le rôle de l'école. Et si on reprend la loi Blanquer et ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la réforme des lycées et les nouveaux programmes. Il y a eu une expertise qui a été très rapide, très peu de participation des profs, très peu de participation des experts. Les programmes sont très contestés puisque l'histoire revient un peu au roman national, la géographie fait un peu l'impasse sur des dimensions internationales qui sont essentielles. En sciences économiques et sociales, j'ai suivi ça de près. Bon, on développe beaucoup plus la microéconomie qui est abstraite et puis qui est théorique, alors que la macroéconomie qui parle de chômage, d'inégalité de pouvoir d'achat est beaucoup moins présente. Et donc tout ceci est assez loin, en fait, des grands débats, des grands défis auxquels les citoyens doivent faire face. On voit bien, la manifestation des jeunes pour le climat est très intéressante de ce point de vue-là. On voit bien qu'est-ce qui les intéresse, ce sont les grands défis. Et dans l'école, on devrait en parler, évidemment, ça devrait être un lieu de discussion. Et on s'aperçoit que là, il y a un clivage entre une conception relativement traditionnelle des programmes et puis ce qui mobilise les jeunes. Et évidemment, si ce qui mobilise les jeunes est dans les programmes, on aura beaucoup plus d'élèves à accrocher, on aura moins de décrochage parce que l'école sera dans la cité. Et c'est ce qui permettrait d'avoir la confiance. Or, si on ne crée pas cette participation et cette expertise, on a moins de mobilisation des profs, on a moins de mobilisation des jeunes. Et tout ceci renvoie à des conceptions de l'école et de la société au-delà de l'école, c'est-à-dire qui gouverne, qui dirige, etc.
Joël Proust, je crois que vous êtes toujours avec nous et je vous en remercie.
Toujours là.
Et vous vouliez intervenir.
Oui, alors je voulais intervenir sur un sujet qui vient justement d'être de se représenter là dans ce qui vient d'être dit. C'est le rôle possible des interventions qui vont dans le sens de la réduction des inégalités entre les élèves. Je crois que malgré le fait que l'expérience subjective soit difficile à mesurer, en fait, elle l'a été dans certaines opérations qui ont été menées à l'étranger, en particulier deux d'entre elles dont je voudrais brièvement parler. La première, c'est consiste simplement à proposer aux élèves d'écrire un texte d'auto-affirmation, c'est-à-dire sur ce qui compte pour eux. On leur donne un certain nombre d'exemples possibles de valeurs, par exemple l'amitié, la famille, la musique, le sport, etc. Et ce qu'on leur demande, c'est simplement d'écrire quelque chose, ce qui compte pour eux, et de donner un certain nombre d'exemples de choses qui sont vraiment très haut dans leur motivation. Et on découvre, avec cette seule proposition d'écriture, trois fois dans une année, on découvre que les enfants, et seulement eux, venant de milieux défavorisés, ont des résultats très nettement améliorés pendant 2 ans. Les 2 ans suivants où leurs travaux ont été suivis et comparés. Donc, première intervention très positive. Mm-hmm. Une autre qui est celle de Daphna Userman, qui, en effet, essaye de montrer aux élèves de collège que ce qu'ils font maintenant est pertinent pour eux plus tard. Et ça, c'est pas automatique du tout qu'un élève de collège se représente le lien entre ce qu'il fait maintenant et ce qu'il sera après. Et donc, il y a des tâches de visualisation projective dans le temps, en quelque sorte, qui sont effectuées, qui sont proposées aux élèves, qui sont très concrètes. Par exemple, il s'agit de dessiner son avenir, de se représenter un sentier qui va de maintenant à plus tard, avec les éventuels obstacles qu'on va rencontrer, etc. Et là aussi, on a des résultats très positifs sur l'évolution des apprentissages de ces élèves pendant les 2 années suivantes, et cela uniquement pour les élèves de milieux défavorisés. C'est-à-dire que les enfants de milieux favorisés n'ont pas besoin de cela pour réussir, mais ceux de milieux défavorisés, en revanche, en ont besoin. Donc, je pense que là, il y a une place pour, l'espoir de ceux qui veulent remédier aux inégalités scolaires, malgré ce qui vient d'être dit concernant des finalités qui sont peut-être souterrainement inégalitaires.
Et Joël Proust, je rappelle que vous êtes membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Daniela Gazinski, peut-être aussi sur le point précédent,
oui,
la consultation.
Sur la question que vient de réévoquer Joël Proust et qu'évoquait Pierre Marle tout à l'heure, des différences de finalité. Je pense que c'est un point extrêmement important qui explique beaucoup des malentendus sur l'expertise, parce que le plus souvent, on va déguiser en conflit d'experts des choses qui sont au fond des conflits de finalité. Parce qu'on n'attend pas la même chose de l'école, on va avoir recours à différentes manières de mesurer les résultats, de mesurer les impacts, et on va, sous prétexte qu'on est dans une période où il est beaucoup plus difficile qu'à une autre d'assumer sur un plan, j'allais dire, idéologique, politique, de valeurs ou de principes, des préférences sur les politiques scolaires, on va aller chercher du côté de l'expertise ou de la critique de l'expertise des formes de justification, de plaidoirie en faveur d'une politique ou d'une autre. Il faut faire très attention à ça parce que ça contribue aussi au discrédit de l'expert. Je ne vais plus croire l'expert de celui qui défend une autre vision de l'école que la mienne et réciproquement. Et donc, il faut arriver à expliciter ce qui relève véritablement des différences de préférences. C'est politiquement plus difficile. Et ensuite, se mettre d'accord sur les expertises qui nous donnent au fond... L'expertise, c'est quoi? C'est un art des moyens, en définitive. C'est pas à l'expert de dire... Le but, c'est à l'expert de nous dire, si je veux atteindre tel objectif, quel est l'outil le plus efficace. Mais pour ça, il faut d'abord discuter des objectifs. Et c'est souvent ce qu'on ne fait pas assez à propos de l'école, parce que c'est conflictuel.
Et d'ailleurs, en éducation, les objectifs finaux comptent beaucoup dans la réussite des élèves. Ce que voulait dire Joël Proust, c'est ce qui explique aussi les différences sociales et que certains enfants n'aient pas besoin, moins besoin du travail dont la philosophe a parlé. Daniela Gazinski, on va s'arrêter sur le titre quand même de votre rapport « Expertise et démocratie, faire avec la défiance. Évidemment, ce avec est extrêmement intéressant. C'est pas faire face à la défiance, c'est pas restaurer la confiance, c'est faire avec. Que voulez-vous dire par là ?
Bah, plusieurs choses, effectivement. Faire avec, ça veut dire qu'on ne se berce plus l'illusion qu'on va réussir à l'éradiquer, qu'on va du jour au lendemain réussir à restaurer la confiance dans les experts, dans les institutions, etc. Mais faire avec, ça veut pas dire simplement s'y résigner. Ça veut dire aussi construire les institutions de dialogue qui permettent d'incorporer les paroles, les citoyens défiants dans la fabrique de l'expertise. Et donc, recueillir autrement les interpellations des citoyens défiants. On propose différentes institutions pour cela, un défenseur du droit d'accès aux expertises qui ferait un peu comme le défenseur des droits, finalement, qui recevrait toutes les interpellations.
Croyez qu'on saisirait, en tant que citoyen, un défenseur du droit à l'expertise ?
Mais aujourd'hui, si vous avez un doute sur l'expertise qui a prévalu en matière de vaccins, en matière de nucléaire, vous savez à qui vous adressez, vous ? Pas forcément. Il y a 1000 institutions d'expertise et c'est plutôt normal parce que les spécialisations sont ce qu'elles sont. En revanche, pour pouvoir mesurer...
Mais c'était pas le rôle des médias, ça ?
Donner un poids... entre autres, oui, mais les médias, ils reçoivent pas beaucoup la parole des gens. Ils le font à la marge, ils le font de plus en plus, mais ils restent le plus souvent dans un mode de communication verticale, comme le font les ministères, comme le font les institutions d'expertise, qui ont au fond un contenu à transmettre à la population et qui le diffusent. Là, il faut en quelque sorte renverser l'ouverture des canaux de communication, faire entrer la parole défiante pour qu'on comprenne véritablement quels sont les ressorts de cette défiance et qu'on se donne les moyens. Non pas d'y répondre pour l'éradiquer, mais pour faire mieux, y compris le boulot des experts eux-mêmes, en comprenant ce qui ne passe pas, ce qui ne passe plus.
Merci beaucoup, Daniel Agacinski. Je rappelle le titre du rapport. Non, rappelez-le vous-même, parce que je n'ai pas la...
Expertise et démocratie, faire avec la défiance, qui est disponible sur le site stratégie.gouv.fr.
Merci à Joël Proust d'avoir été au téléphone avec nous. Merci à Pierre Mel. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Polémique et fake news scolaire, la production de l'ignorance. C'est publié aux éditions du Bord de l'eau. Dans un instant, c'est la leçon de chose avec Sophie Bobert et Jeanne Chéral.
Si je n'étais pas si secret, si avant de parler, cette fois ma langue n'allait rotative, si je ne comptais pas mes doigts pour éviter toute dérive, si chez moi les bonnes manières n'étaient pas si envahissantes, je les écraserais par terre avec une force ahurissante. Si je n'accrochais à mes tempes deux impeccables favoris, si je n'éteignais pas la lampe lorsque j'ôte mes deux souris, si je ne rougissais pas tant, si je frémissais un peu moins, si par plaisir de temps en temps je m'accordais un petit joint, si ma vie était moins parfaite, si j'avais le goût du danger, si je savais faire la fête et juste un soir te déranger, si j'acceptais de prendre part aux discussions grasses et salaces, pour moi aussi avoir ma part du gâteau leur. Dégueulasse, si j'arrivais de ma campagne avec mes gros sabots merdeux, si je me baladais en pagne avec des airs libidineux, si je te regardais de haut, si je te prenais par derrière, si j'atteignais les idéaux de ceux qui cassent les barrières, si je n'avais plus peur de rien, si je ne craignais plus personne, je pourrais te dire allez viens, je t'emmène en Sierra Leone avec classe et virilité, je décrocherais du plafond la abat-jour couleur voie lactée pour te l'offrir.
Jeanne Chéral, qu'on vient d'entendre chanter et jouer du piano, avec des si, c'était le titre de cette chanson. Elle enregistre en ce moment, Jeanne Chéral, un nouvel album. Elle a répondu aux questions de Sophie Bobert. Nos idoles, c'était Charlie Hebdo, raconte-t-elle, souvenir doux, amer de son enfance.
Alors oui, Herbray, c'est vraiment le village où j'ai grandi. Avec mes deux sœurs, avec mes parents, c'est vraiment un tout petit village. Hein. C'est pas inoubliable au sens esthétique, comme on peut imaginer par exemple un paysage dans les Baux de Provence ou en Bretagne. Pour moi, c'est plus morne plaine. Donc, je pense que ouais, mes parents étaient sûrement la dernière génération à être comme ça dans la sédentarité extrême. Quoi. J'ai eu une enfance belle et douce, quoi. J'ai des souvenirs de mon enfance vraiment ludiques et... Ouais.
Et à l'école, hein, ça se passait comment à l'école, Jeanne Chiral? Quel genre d'élève étiez-vous?
J'aimais bien, toute petite, m'exprimer par écrit. J'aimais bien faire des rédactions, des choses comme ça. Comme beaucoup d'enfants, j'ai un peu souffert d'ennui quand même, dès l'école primaire. J'avais l'impression que ça pouvait être mieux, que ça pouvait être plus adapté à nous, plus stimulant. J'avais la chance en fait d'avoir des parents qui, une maman qui lisait beaucoup, qui nous emmenait beaucoup au spectacle. On avait une vie quand même culturelle en dehors de l'école assez riche.
Et est-il exact que vous avez traversé une période aussi durant laquelle vous rêviez de devenir médecin sans frontières?
Oh bah ça oui, quand j'étais petite j'avais ce fantasme-là, mais quand on veut sauver le monde hein, quand on est enfant. mais c'est marrant parce que souvent ma mère m'a dit après coup que dès que j'ai su parler, genre je vois 2-3 ans, je lui disais je veux être artiste. Alors que bon, c'est un mot comme ça, c'est complètement abstrait et j'en ai évidemment aucun souvenir, mais je trouve ça rigolo. Le mot artiste, quoi, c'était pas je veux être chanteuse, je veux être machin, je veux être truc, je veux être artiste.
C'est très chic.
C'est hyper chic. Et puis je voulais aussi enseigner la philo à un moment. J'ai fait de la philo. Quand j'ai découvert la philo, étant adolescente, j'ai trouvé ça génial, quoi. En plus, on avait une professeure de philo qui nous vouvoyait, qui nous prenait vraiment pour des adultes, même si on était que des morveux de terminale. On était quand même considérés comme des êtres pensants et avec un libre arbitre. Et je trouvais ça vraiment formidable. C'est un souvenir qui me revient juste là, mais j'ai le souvenir, par exemple, dans le lycée que je fréquentais, d'avoir été hyper choquée. Il y avait quand même, c'était un lycée catholique et on avait un prof d'histoire qui nous faisait des espèces de cours anti-IVG. Enfin, c'était horrible, horrible. Et j'avais même été collée parce que je m'étais plainte du contenu du cours. Enfin bon, il allait jusqu'à nous montrer des photos. Enfin, c'était atroce.
De la propagande, en fait.
De la propagande, voilà, de la propagande anti-IVG. Mais je profitais du journal du lycée, par exemple, pour exprimer des choses comme ça. On était un petit groupe de lycéens, on écrivait dans un journal qui s'appelait le Cafeteur, et c'était vivifiant, quoi. On essayait d'écrire des choses qui sortaient un petit peu de... Enfin, nos idoles, c'était Charlie Hebdo, quoi. Et on voulait un peu marcher en toute humilité dans ce genre de pas, dans ce genre d'esprit libertaire. Donc on avait vraiment cette porte de sortie-là.
Jeanne Chiral, vous avez déclaré il y a quelques années dans Les Inrecuptibles, je vous cite, je ne me sens pas très étrangère de la fille que j'étais il y a 12 ans. Mais cette fille-là, il me semble, avait sa part d'angoisse. C'était une fille un peu insomniaque, un peu angoissée, qui aimait bien se promener du côté des cimetières.
Alors ça n'a pas vraiment changé. Non, mais même si là j'ai 40 ans aujourd'hui, donc je pense être un peu plus... peut-être un peu moins hystérique, un peu moins fofolle,
un peu moins gothique.
Ouais, un peu moins gothique, mais j'ai une image qui me vient avec ma cousine Isabelle, qui est ma cousine aînée. Enfin, on a 3-4 ans d'écart. C'était un peu un de mes modèles quand j'étais enfant, et on aimait beaucoup effectivement se balader dans les cimetières et regarder. Comparer les fleurs, comparer les plaques, comparer les décorations en faïence, les choses comme ça. C'est cette image-là qui...
Ça vous fait pas peur?
Non, pas du tout. Et c'est vrai que là, on n'est pas très loin du Père Lachaise, en plus. Là, c'est l'endroit où j'ai mon studio, c'est à proximité de ce cimetière que j'adore. C'est vraiment un de mes endroits préférés dans Paris. Donc, ouais, j'ai toujours eu c'est pas une attirance, mais un goût pour les endroits comme les cimetières, qui sont des endroits de calme absolu. Enfin, c'est hyper reposant pour l'œil, pour l'esprit. Il y a jamais aucune pub qui passe dans les cimetières. Enfin, il y a une certaine sérénité. Donc là, j'ai fermé les yeux pendant quelques instants et je me suis vue dans une allée de cimetière.
Nous parlions de look gothique et de cimetière avec Jeanne Chiral. Eh bien, la semaine prochaine, nous vous proposons une émission sur la peur. Comment la peur se transmet entre les générations? Une peur qui peut aider à grandir, à moins que l'avenir ne paraisse trop sombre. Vraie question pour les éducateurs dans cette époque inquiète. Vous retrouvez cette émission, celle d'aujourd'hui, et tous nos anciens numéros en podcast. Alors abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Merci à toute l'équipe d'Être et Savoir, Somanina à la réalisation, Avril Ventura avec qui je prépare cette émission chaque semaine. Merci à Jean-Guilain Meige à la prise de son à Paris, à Jean-François Troadec à France Bleu Armorique, à Rennes. Bonne soirée à tous sur France Culture.